Le Mac de Cahors sur CFM Radio, c'est maintenant Gilles Barret au micro. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Parlons aujourd'hui de cinéma, de la rentrée du cinéma Le Grand Palais de Cahors, avec une programmation qui ne se limite décidément pas aux sorties de films uniquement, puisqu'il y a des festivals, des avant-premières, des ciné-rencontres, des séances spéciales, des rendez-vous avec le jeune public, et puis bientôt un événement particulièrement original autour des traditions et des spiritualités ancestrales. Alors pour nous présenter cette rentrée et nous dévoiler ce qui attend les spectateurs dans les prochaines semaines, recevons Laura Blanc, qui est l'adjointe de direction du cinéma Le Grand Palais. Bonjour Laura.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Laura. Laura, la rentrée démarre fort au Grand Palais. J'ai visionné un petit peu là sur mon écran la programmation, l'énorme programmation qu'il y a au festival. J'ai le sentiment que le staff du cinéma veille toujours à un certain équilibre entre les grosses sorties de films, les cinémas d'auteur, les films d'art et d'essai, et puis les événements locaux. Je trouve qu'il y a un équilibre là-dedans que vous faites.
Oui, c'est vrai. Après, c'est aussi... Parce que l'été, c'est la place aux gros blockbusters. Donc avec l'Odyssée, Spider-Man, ouais. On a bien rempli les salles et ça, c'était chouette. Et la rentrée approchant, c'est vrai qu'on tourne plus sur des films plutôt à réessayer, parce que c'est une période qui est plutôt calme. Et c'est là où se regroupent les ciné-débats et autres festivals.
Alors, le Grand Palais est devenu bien plus qu'un endroit où l'on vient simplement voir un film. Est-ce que ce sont les propositions des distributeurs, les associations, les envies du public ? Ou un peu tout cela à la fois qui constitue la programmation. Ou bien c'est Laura Blanc qui imagine tout ça.
Tout sort de ma tête, c'est moi qui fais tout. Non, c'est vraiment un mélange des trois. C'est les distributeurs, c'est beaucoup le travail des associations et de notre travail à nous de notre côté. Et les événements culturels qui se passent dans la ville, où des fois on se greffe, comme pour Lot of Saveur notamment, où c'est greffé. Et donc ça nous permet de proposer en fait plein d'événements hyper variés.
On va parler un peu de ciné-débat, ciné-rencontre. Alors la salle n'est pas toujours pleine, mais les gens qui sont là, c'est des gens qui sont intéressés. Et est-ce que tu ressens ce même effet ? Est-ce qu'il y a une demande de ce genre de rencontre, de ciné-débat, de ciné-rencontre ?
Oui, complètement. Ouais. Les ciné-débats, c'est toujours particulier, parce que selon le thème, on sait plus ou moins que ça va être difficile à remplir. On a des thématiques qui rassemblent beaucoup, notamment la santé... Tout ce qui parle d'immigration et la nature. Ça, c'est vraiment des trois pôles de thèmes qui rassemblent. Ensuite, il y a des sujets qui sont un peu plus fragiles ou un peu plus, comme l'agriculture par exemple, qui sont un peu plus tendance à affronter certains débats. Et là, c'est un peu plus compliqué. Mais on est
quoique rural, il y avait beaucoup de monde. Hein.
Oui, rural, mais voilà, j'allais dire, il y a aussi rural parce qu'il y a le réalisateur qui était là, qui fait un énorme travail, et on a aussi des associations qui sont derrière et qui sont qui travaillent beaucoup en amont pour faire venir du monde.
Je pense à aussi une soirée énorme. Je crois qu'il y avait 3 salles de mobilisées, autant que je me souvienne.
Pour Compostelle. Mais Compostelle, voilà, déjà, parce que c'est Compostelle, c'est le chemin de Compostelle, on est en plein dedans, la ville. Ouais. C'est quand même un gros arrêt. Et en plus, on avait l'équipe du film. Ouais. Donc là, c'était.
Et puis, quand on voit le parcours depuis qu'ils ont fait, ils ont fait des millions d'entrées quand même.
Nous, on a gardé le film jusqu'à mi-août.
Ah ben voilà, ça explique cela.
Ouais, c'était la folie. On a voulu le garder encore, puis on s'est dit, là, c'est plus possible.
Et puis, il y a un événement très, très important. Là, je crois que c'est début octobre. C'est le 8e festival.
Alors, c'est le 8e festival qui s'est déroulé en France, mais nous, c'est la 2e édition qu'on fait ici.
Alors, on parle bien sûr du festival international du film chamanique.
Voilà, des traditions ancestrales chamaniques, exactement. Oui, je crois que c'est vendredi 3, 4, c'est vendredi 2. Samedi 3 et dimanche 4.
4 octobre.
Donc on a reçu les programmes en plus.
Donc c'est 3 jours de projection, de débat.
Alors c'est 3 jours. Alors c'est sous forme de modules, on appelle ça. Il y a 10 modules se répartis en 3 jours. Chaque module est réparti avec une projection d'un film, plus ou moins long. Ça peut être 40 minutes, ça peut être 1 heure. Et ensuite, il y a une intervention du réalisateur et il y a des intervenants qui sont dans le domaine très prestigieux. Et il y a des séances de purification, des séances de chant, de protection, des choses. Voilà, c'est très spécifique, mais l'année dernière avait été un énorme succès, donc on continue cette année.
Qu'est-ce que le public attend de cet événement, de cette soirée de spiritualité chamanique ?
Alors moi, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu perdue. Je suis complètement perdue. Mais les gens qui viennent, oui, sont très au courant et très au fait de ce qui se passe. Alors, il y a quelques curieux, mais la plupart viennent de toute la France, hein, de toute façon. Et la plupart savent très, très bien où ils mettent les pieds.
Je ne sais pas, j'ai lu quelque part, peut-être que je me trompe, ce sont des films venus du Mexique et d'autres pays, je crois, non ?
Ah oui, il y a beaucoup l'Amérique du Sud, il y a beaucoup l'Afrique, oui, exactement. Ah. Ça vient partout dans le monde. Je crois qu'il y a très peu de films français.
Ah oui, tiens, j'ai mes notes. Mexique, Mongolie, d'Inde, du Népal, de Sibérie, du Gabon, du Canada.
Oui.
Des films qui viennent de tous ces pays-là.
Oui, voilà. Y a un réalisateur qui m'a appelé ce matin, il m'a dit « Bon, je suis au Népal en ce moment, je vous envoie le film. » Je suis d'accord.
Okay. J'imagine qu'il faut prendre ses billets à l'avance, sinon...
C'est toujours mieux. Après, voilà, on est dans la plus grande salle, donc on sait qu'on aura quand même la possibilité de faire entrer des gens, mais toutes les séances sont disponibles à la réservation, en salle, sur le site internet et en caisse.
Donc tu l'as dit, il rencontre des débats avec les réalisateurs qui seront présents. On va pouvoir débattre avec eux.
Et il y a aussi la Prince de Chaman, et je pense que c'est ça qui attire le plus. C'est un moment vraiment partagé ensemble, où c'est vraiment une communion en fait.
C'est ce qui fait la particularité de ce genre de rendez-vous de toute façon.
Oui.
La rencontre avec les animateurs, et puis évidemment, c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de séance au cinéma Le Grand Palais.
CFM Radio, CFM.
Je suppose qu'il y aura un atelier enfant Halloween et puis une soirée de cinéma de l'horreur pour les plus grands.
Tiens, alors cette année, ça tombe un samedi. Donc cette année, j'ai au regret de vous dire qu'on n'aura pas de nuit d'Halloween. On fera soirée d'Halloween. Mais vu que ça tombe un samedi, qu'il va se passer beaucoup de choses dans les restos, voilà, dans les bars.
Tu parles de la nuit de l'horreur.
Oui, la nuit de l'horreur.
Il n'y aura pas de nuit d'horreur cette année.
Il y aura la nuit de l'horreur, mais qui sera plus courte.
D'accord, donc ça va finir vers minuit, 1h du matin, tu veux dire ?
Oui, 1h, 2h, oui, je pense.
Et il y aura Halloween la veille pour les petits ?
Oui, normalement, le vendredi, il y a toujours l'atelier citrouille. C'est la tradition. Et ensuite, le samedi, on va proposer deux salles avec deux ambiances différentes. Des films un peu plus, je l'appelle le mainstream, un peu plus grand public. Et une deuxième salle avec, certainement, le programme n'est pas encore fixé. Et une deuxième salle où c'est un peu plus exigeant avec des films en VO.
Quels ont été les films qui ont bien marché là, durant l'été au cinéma Le Grand Palais de Cahors ?
Cet été, ça a été Odyssée et Spider-Man, ça a été énorme au niveau des entrées. Ensuite, il y a eu Fjord de la Palme d'Or qui fonctionne bien. Ensuite, il y a toujours les De Gaulle, la bataille de De Gaulle, partie 1 et partie 2,
ouais.
Qu'on a toujours en ce moment et qui cartonne. C'est très spectaculaire le chemin qu'ils font au niveau des entrées. Et là, on va avoir le nouveau Garance, le film avec Adèle Exarchopoulos. Qui est le nouveau film d'une réalisatrice qui avait fait « Je verrai toujours vos visages », il y a 2-3 ans, qui avait cartonné. Et ça, on attend beaucoup de ce film.
Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous ou pas ? Est-ce qu'on a tout cité là pour la rentrée ?
Oh non, il y en a plein. Il va y avoir le ciné-club en octobre avec des ciné-débats.
J'ai cru comprendre qu'il n'y aurait plus de programme en papier dorénavant au cinéma.
Oui, voilà. En fait, on a un peu modifié. C'est pas cool. Je reprends.
Vas-y.
En effet, on a un peu modifié. En fait, maintenant, on a une gazette mensuelle qui sort en fait tous les mois et qui se trouve dans les points de vente en ville, enfin dans les points comme au Halles, enfin dans certains points stratégiques de la ville, et il y a aussi bien sûr au Grand Palais. Et désormais, vous retrouverez toutes les semaines que la grille horaire avec les films. Et si vous voulez une information sur les films qu'on a en ce moment à l'affiche, ça sera sur notre gazette ou sur notre site internet.
Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. On retiendra donc une rentrée particulièrement riche au Grand Palais, au cinéma Le Grand Palais, avec des films, des rencontres, des séances spéciales, on l'a dit, puis surtout ce festival international du film chamanique qui, je vous le rappelle, aura lieu du 2 au 4 octobre prochain. Merci Laura.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Vous écoutez CFM Radio, le mag de Cahors. Seconde partie de l'émission, on accueille à présent le sculpteur lotois Marc Petit, au cœur d'une exposition gratuite à ciel ouvert qui jalonne la ville de Cahors, du quai La Grive jusqu'au pont Valentré, en passant par le parvis de la mairie, au musée Henri Martin, les allées Fénelon, soit 17 sites au total dans le cadre de l'exposition d'une rive à l'autre, et ce jusqu'au 20 septembre. Bonjour Marc Petit.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Quand on découvre comme ça vos sculptures, on est immédiatement frappé par ces figures humaines. Mais quelles sont-elles ? Qu'est-ce qu'elles représentent ? Ce ne sont pas des personnes connues.
Non. J'ai longtemps travaillé avec des modèles, mais je ne le fais plus. En définitive, elle ne représente personne pour espérer représenter tout le monde. C'est le rêve de l'universalité qu'a tout artiste.
Ouais. Mais qu'avez-vous envie de raconter à travers ces corps? Parce qu'en fait, on ressent une certaine mélancolie en les observant. Est-ce que c'est une émotion que vous cherchez à transmettre ou est-ce que c'est une interprétation parmi d'autres du monde vivant que vous observez?
Alors, une œuvre d'art, une sculpture en l'occurrence, ne raconte rien. si elle devait raconter quelque chose, je le dirais avec des mots. Une œuvre d'art, enfin une sculpture, dit l'indicible.
Parce que je vous coupe, parce que pourtant celle, la sculpture qui se trouve sur le parvis de l'hôtel de ville, c'est un homme qui est assis, qui a la main levée en l'air, qui semble discuter avec quelqu'un ou avec nous, je ne sais pas comment dire.
Mais oui, mais si vous voulez, le spectateur a tous les droits d'interpréter, mais le sculpteur ne va pas à l'atelier en disant « Tiens, je vais raconter telle ou telle histoire ». Ma sculpture est nostalgique, parce que je suis nostalgique. Ma sculpture a un seul sujet, c'est le rapport au temps, la condition humaine. La mélancolie, oui, vous en avez parlé, mais c'est mélancolique. C'est une sculpture sombre, c'est une sculpture noire, c'est une sculpture douloureuse. Et à la fois, si elle a une qualité, c'est qu'il y a autre chose. Parce que faire crier une sculpture, c'est d'une simplicité d'enfant. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est aller chercher la beauté. Aller chercher une forme de tendresse. Mais ce propos-là est masqué par l'image douloureuse qui est réelle. Je suis spectateur aussi de mon travail. Et je trouve que ça génère une énigme. Et si ma sculpture a une qualité, c'est cette énigme. C'est-à-dire comment cet objet aussi triste, aussi noir, aussi sombre, peu importe, me touche autant, me dit des choses. Et à la fois, comment, quand on commence à le regarder réellement, comment je peux y trouver une forme d'élégance. Comment peut-être elle s'approche de la beauté, comment, sauf que c'est pas une beauté de papier glacé, si vous voulez, c'est pas le joli. Dès que je vois quelque chose de joli dans mon travail, j'essaye de l'éliminer le plus vite possible, quoi. J'ai horreur de la joliesse.
Ouais. Mais comment ça naît dans votre tête? C'est une émotion au départ qui vous donne envie de créer telle ou telle sculpture, ou c'est une réaction par rapport à un événement? Comment ça naît?
Alors, ça naît, c'est énigmatique aussi. Comment ça naît? En définitive, ça n'est pas d'une émotion, ça n'est pas d'un sujet, ça n'est pas, ça naît de mes lacunes. On va dire que j'ai été inspiré la première fois à 14 ans quand j'ai fait ma première sculpture et je me suis rendu compte de tout ce que je ne savais pas faire, si vous voulez, de toutes les lacunes que j'avais. Et quand j'ai attaqué la seconde pièce, j'ai essayé de pallier à ces lacunes, d'aller un peu plus loin dans la connaissance. Et en définitive, c'est une manière d'essayer de se reconnaître, d'arriver à se voir, mais à se voir dans une forme de vérité vraie, en enlevant le maquillage. Et enlever le maquillage, c'est long. Et ça fait 50 ans que je fais de la sculpture, ça fait 50 ans que j'essaye d'enlever le maquillage, et je pense que j'y suis toujours pas arrivé.
CFM Radio, 40 ans de liberté, 40 ans d'expression. CFM Cahors, le mag.
Vous avez dit que vous avez commencé à 14 ans, mais déjà au bronze, déjà, vous travaillez le bronze?
Non, je travaillais à l'époque, pour moi, là, je connaissais absolument rien à la sculpture. Pour moi, le sculpteur que je connaissais peut-être, et encore, je dis peut-être parce que je ne suis même pas sûr, c'était Michel-Ange. Donc, pour moi, c'était la pierre.
Ah oui.
Et j'ai commencé en taillant des pierres. Et alors après, bon, c'est une histoire un peu longue. J'ai rencontré un sculpteur, René Fournier, qui était à Cahors, qui m'a dit, attends, on ne commence pas avec la pierre, on commence avec un matériau qui permet de chercher, c'est-à-dire le plâtre, la terre, la cire. Et après, tu verras si éventuellement tu retailles en marbre, tu retailles en pierre, tu retailles en bois, et éventuellement tu fais en bronze. Et donc, petit à petit, si vous voulez, le bronze, c'est, a été vraiment primordial dans mon travail. Ma sculpture est faite pour le bronze.
Alors, je le disais dans le lancement, il y a quand même 80 sculptures qui sont exposées. Est-ce qu'il y a des sculptures que vous ne montrez jamais, qui restent dans l'atelier ?
Alors, il y a des sculptures même qui sont vouées à disparaître totalement. Je détruis une sculpture sur deux à peu près.
Ah ouais, quand même.
Et je ne détruis pas assez. je devrais en détruire plus. Donc il y a.
Oui, mais il faut nous dire pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas content de vous-même?
Parce qu'elles ne répondent pas à l'architecture de la sculpture, si vous voulez. Elles ne répondent pas à l'orthographe, à la grammaire. La sculpture, c'est une langue. Et c'est une langue qui est vouée à être déformée, à être. Mais si les déformations ne sont pas de bonne qualité, si vous voulez, on peut déformer la langue, mais pour déformer la langue, il faut la connaître. Et il arrive parfois que ces déformations sont exagérées, sont vraiment pas belles, sont gratuites. Une déformation, elle ne doit pas être gratuite. Si je conjugue un fémur en l'allongeant, eh bien, il va falloir que le tibia soit long aussi. Et si vous voulez, c'est une langue qu'il faut essayer de faire aller un peu plus loin.
Mais est-ce que vous partez d'un dessin ou c'est votre imagination directement
qui alors non, je dessine beaucoup. Et le dessin nourrit la sculpture qui nourrit le dessin. Mais c'est parallèle. Je ne peux pas dire que c'est jamais arrivé, puisque c'est arrivé par exemple avec la danse macabre que j'avais dessinée avant de sculpter. Oui. Mais c'est relativement rare dans mon processus, dans ma manière de faire. En principe, je dessine pas. Et si je pars sur une sculpture de 3 mètres de haut, je pars sans maquette, je pars directement au format. Ce qui est bizarre, si vous voulez, ce qui n'est pas logique, ce qui est même, on pourrait presque dire idiot, parce qu'on se met face à des problèmes qui ne seraient pas là si je partais avec une maquette. Mais si je pars avec une maquette, je vais finir la maquette et je n'agrandirai pas.
Ça veut dire qu'en fait, vous travaillez carrément avec un escabeau hein, quand vous avez des sculptures de 3 mètres de haut, là, non?
Ah bien sûr, oui, et même des échafaudages. C'est même pas un escabeau. L'escabeau, oui, ça arrive assez souvent, mais j'échafaude, bien évidemment.
J'imagine même pas votre atelier. Il doit être immense, votre atelier, non? Il doit être grand.
L'atelier est grand, mais pas assez. C'est-à-dire, il fait 220 mètres au sol, mais j'ai une mezzanine, j'ai 6 mètres sous plafond.
Et des grandes portes pour pouvoir passer les sculptures après, non?
Alors oui, mais bon, l'avantage, si vous voulez, avec les modèles, c'est qu'on les coupe.
Ah.
Avant de partir à la fonderie, ils sont coupés. Donc les fondeurs viennent à la maison, viennent à l'atelier. Et on les coupe, mais bon, j'ai une porte qui fait 4 mètres sur 4, si, pour vous renseigner.
Mais ça doit quand même vous faire mal au cœur, quand même, de savoir qu'on va couper une sculpture pour la sortir et la remettre ailleurs, non? Ça doit quand même vous blesser, ça, non?
Alors, les premiers temps, ça fait très bizarre.
Eh oui.
Mais c'est une bonne manière de voir la qualité de la sculpture.
Ouais, ouais.
Tout à fait honnêtement, on dit que toutes les parties de la sculpture doivent porter la sculpture en entier. Giacometti disait une sculpture chaldéenne, si vous la cassez en 4, vous aurez 4 sculptures chaldéennes.
Ah oui, d'accord.
Et chaque. Alors, je me régale à les voir couper parce que je me dis, est-ce que ça tient encore? Par exemple, sur le fil, la sculpture qui est exposée au parc Olivier de Magny avait les 13 personnages. Ouais. Quand ils sont venus les couper, ils ont coupé toutes les têtes. J'ai dit, bon, ça marche encore. Après, ils ont coupé tous les bras. Ah ben ça marche encore. Après, ils ont coupé les torses, ça marche encore. Et jusqu'au moment où il ne restait plus que les 3 piliers, j'ai dit, mais même les 3 piliers, ils disent quelque chose. Donc si vous voulez, ça c'est rassurant. Ou alors des fois, ça peut faire un peu peur et on peut se dire, merde, c'est peut-être pas aussi bon que je croyais.
Ouais, mais enfin, c'est quand même un peu stressant parce que ça peut casser ce que vous aviez dans la tête au départ. Hein.
Non. Si vous voulez, leur métier, c'est de refaire la sculpture après dans le bronze, si vous voulez. Ça, c'est la partie fonderie. Et la partie fonderie, c'est un très très gros chantier. Hein. C'est énorme.
Créer une sculpture en bronze, ça demande beaucoup de temps, j'imagine?
Alors, tout dépend. Alors, pour la partie fonderie, ça, c'est les temps sont incompressibles. C'est-à-dire il y a des temps de séchage. Enfin, on peut l'évaluer assez facilement, le temps qu'il y a de travail pour la fonderie. Par contre, pour la sculpture, pour la création du modèle, j'aime pas trop ces mots, mais enfin, pour créer le modèle, ça veut absolument rien dire. C'est-à-dire que si ça marche bien, ça peut aller vite. Et si ça marche mal, ça peut mettre beaucoup de temps. Et en principe, c'est un gage, c'est pas un bon gage, si vous voulez, quand le travail demande trop de temps. Bien souvent le résultat est mauvais. Ça veut dire que ça n'a pas marché facilement, si vous voulez. Ça marche pas. C'est pas parce qu'on va me dire tu travailles 8 jours de plus et tu feras un chef-d'œuvre. À partir de là, tous les sculpteurs travailleraient 8 jours de plus et il n'y aurait plus que des chefs-d'œuvre sur la terre.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas. Et malheureusement, si vous voulez, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Et ça aussi, quand est-ce qu'une sculpture est finie? Je crois qu'une sculpture est finie quand on ne peut plus y apporter que de l'intelligence.
Vous savez, dans la littérature, les auteurs, ils font appel à des bêta-lecteurs avant de lancer leur roman, pour savoir si leur roman tient la route. Est-ce que ça existe ça dans la sculpture? Est-ce qu'il y a des bêta-sculpteurs qui vont vous dire effectivement ce qu'ils ressentent et si ça peut vous aider à lancer la sculpture en public ou pas?
Non. Là, enfin, je sais pas, peut-être que ça existe, mais en ce qui me concerne, si vous voulez, le seul juge, c'est moi.
Ouais.
Et je sais, pour en avoir parlé, par exemple, avec Marie-Hélène Lafont, elle écrit 3 fois ses romans. C'est-à-dire, elle écrit une première mouture avec 300 pages, elle laisse reposer un an, au bout d'un an, elle le reprend, il reste plus que 200 pages, et à la fin, elle garde des... Ouais. Marie-Hélène, elle écrit court, c'est des romans qui font entre 120 et 150 pages.
Ouais.
C'est enlevé, si vous voulez, c'est enlevé.
Elle le resserre.
Ouais. Pas, tout, voilà. Et la sculpture, c'est exactement pareil. Ouais. Il faut enlever pour apporter. Ça aussi, c'est un concept un peu particulier, mais il faut enlever l'anecdote là. Pour répondre à votre première question, si vous voulez. Voilà, c'est, faire de la sculpture, c'est enlever l'anecdote.
Est-ce que vous travaillez sur une seule sculpture à la fois ou plusieurs en même temps?
Alors, en règle générale, je ne travaille que sur une. Même si il peut arriver que j'en ai 2 ou 3 en route, mais j'aime pas ça, si vous voulez. Quand je suis concentré sur quelque chose... J'aime bien aller jusqu'au bout.
Avec quel regard, Marc Petit, auriez-vous envie qu'un visiteur vienne observer, ressentir votre exposition jusqu'au 20 septembre et même ce 12 juillet en votre présence?
Alors qu'il ressente ça, honnêtement, il ressent ce qu'il veut, mais par contre qu'il regarde avec de la naïveté.
Ah.
C'est-à-dire qu'il ne préjuge pas. Et si vous voulez, vous avez le droit de considérer que ma sculpture est de très mauvaise qualité, vous avez le droit de dire que c'est horrible, vous avez le droit de dire que c'est affreux. Par contre, ça ne suffit pas. Si vous dites que c'est quelle merde ce truc, vous devez dire que c'est une merde pour telle et telle raison.
Bien sûr.
Et là, ça vous permettra de comprendre mieux la sculpture. Même si on part avec quelque chose de très négatif au départ.
Non, mais en façon, on peut jamais dire qu'une sculpture est une merde, pour reprendre votre terme. On peut pas dire ça, nous, en tant que spectateurs. On ressent des choses, c'est sûr, mais on peut pas définir un travail comme ça d'un artiste.
Je crois, mais je sais par expérience, pardon, je vous ai coupé, mais par expérience, je sais qu'il y a que ma sculpture génère parfois des sentiments un peu violents, des sentiments brutaux.
Ah, moi je dirais qu'elle est pas indifférente.
Oui, non, mais ça c'est sûr. Et puis c'est le rêve de tout artiste, si vous voulez.
Ouais.
C'est blanc ou noir. J'aime pas du tout le gris, hein. J'aime pas les demi-mesures.
Parce que quand on aime ou qu'on n'aime pas, elle attire l'œil.
Mais bien sûr, et une œuvre d'art est là pour déranger.
Ben c'est ça, ouais.
À condition que l'artiste n'ait pas souhaité déranger. C'est trop facile, si vous voulez, d'aller à l'atelier, de dire qu'est-ce que je vais faire pour embêter le monde ce matin.
Quoi. Ouais.
Ça, c'est hyper facile. Par contre, si le résultat d'un travail honnête, d'une vraie réflexion, s'avère dérangé... l'artiste a fait son travail. Une œuvre d'art est là pour poser des questions et ne pas y répondre. Donc c'est fatigant, si vous voulez, une sculpture. Regardez une œuvre, le spectateur a quelque chose à faire. Si vous allez voir une pièce de théâtre pendant 1h30 et que vous ressortiez comme vous y êtes entré, ça n'a servi à rien.
Absolument.
Ouais. Une œuvre d'art est là pour nous modifier. Et il y a certaines personnes qui n'ont aucune envie d'être modifiées parce qu'ils se sentent bien, et après tout, c'est leur plein droit, hein. C'est pas du tout. Mais après, je crois qu'on n'a pas le droit de critiquer une œuvre sans justifier sa critique.
Je rappelle que l'exposition d'une rive à l'autre, hein, donc c'est à découvrir dans les rues de Cahors, c'est jusqu'au 20 septembre. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
À bientôt. Au revoir, monsieur.
CFM Radio, votre radio dans le Lot.